en parler plus tard, c'est un livre de Von Neumann, donc Von Neumann qui a créé l'architecture de Von Neumann, qui s'appelle The Computer and the Brain. Et son idée était vraiment passionnante pour nous, qui était à contrario des approches classiques qui essayent de tirer dans la biologie, de faire du biomimétisme pour essayer de tirer des fondements mathématiques à partir de fondements biologiques, c'est-à-dire projeter le cerveau sur l'ordinateur, ce qu'on essaye de faire un peu actuellement en intelligence artificielle. L'idée, c'était de projeter l'ordinateur sur le cerveau. C'est-à-dire, si on essaye de prendre un être humain et de lui faire résoudre des opérations type de calcul, c'est quelque chose qu'il n'arrivera pas à faire d'une manière claire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des limitations internes ou sociologiques. Et donc, on est parti d'une approche un peu identique, qui était donc de partir des aspects plutôt sociologiques de la créativité, qui sont pas forcément notre domaine d'expertise principal, et d'essayer de projeter dessus des concepts mathématiques et voir comment ça pourrait induire une forme de limitation ou de découvrir certains aspects. Donc, je vais m'arrêter là pour cette petite introduction et je vais laisser la parole à Ninon qui va vous introduire plus clairement le problème.
Ok, merci beaucoup. Alors donc du coup, moi je voudrais commencer cette petite conférence par deux définitions. Donc notamment pour pouvoir vous exposer clairement les problématiques qui nous ont intéressés, je vais vous présenter donc brièvement les deux notions centrales qui sont donc l'intelligence artificielle et la créativité. Donc d'une part l'intelligence artificielle, donc très globalement en fait il est possible de définir et de présenter l'intelligence artificielle comme une sorte d'algorithme qui est capable d'exécuter des tâches qui normalement nécessitent de l'intelligence humaine. Donc du coup, normalement ça requiert donc la position d'un problème formel avec des buts qui sont définis. Donc l'approche de l'intelligence artificielle normalement elle est plutôt mathématique et logique. Ça c'est vrai jusqu'à l'apparition donc des modèles génératifs parce que l'intelligence artificielle c'est aussi ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tableau qui a quand même été vendu plus de 435 000 dollars. Il est même signé, et donc en fait, si vous n'arrivez pas à lire la petite signature en bas, il a été signé par ça, qui est donc normalement l'algorithme qui a fait ce petit tableau. Et au-delà de la peinture, l'intelligence artificielle, c'est aussi ça. Voilà, ça c'est un extrait qui a été composé par Music Transformer. Du coup, en fait, le développement de ces modèles génératifs amène une nouvelle dimension dans les tâches accomplies par l'IA, qui sont donc les fins artistiques. Donc, d'un autre côté, on a la créativité, qui est donc une notion qui est quasiment intrinsèque à l'homme. D'après l'étude de Runko, d'ailleurs, la créativité nous distinguerait même des autres espèces. Dans certaines écoles de psychologie, elle fait partie des besoins psychiques fondamentaux. Et pourtant, il existe une limite qui est absolument infranchissable à notre créativité et qui est résumée par Blake avec cette citation. Donc, les désirs de l'homme sont limités par sa propre perception. Donc, en effet, on ne peut pas imaginer ou concevoir des choses qu'on ne peut pas percevoir. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est qu'en fait, les ordinateurs amènent une nouvelle dimension. Puisque, que ce soit par leur puissance de calcul ou la rapidité d'analyse, ils ont la capacité en fait d'étendre nos limites perceptives. Pardon. Donc en fait, ces définitions qui sont très brèves de l'IA et de la créativité m'ont permis d'ouvrir la voie donc à de nombreuses questions qu'on s'est donc posées pour notre papier. Donc d'une part, dans quelle mesure l'IA peut être considérée comme créative? D'une autre manière, enfin, à l'inverse, comment est-ce que l'IA pourrait nourrir notre créativité? Et j'aimerais aussi ajouter donc une troisième composante qui est quand même essentielle à ces deux aspects, qui est donc l'humain, qui amène donc la problématique très générale de notre article, comment développer donc des relations homme-machine qui pourraient tendre vers des relations de co-créativité. Ça, c'est la grosse problématique du papier. Donc, si on revient sur la créativité, du coup, la première étape, c'est forcément de la définir. Le problème, c'est que c'est très difficile de définir un concept qui est aussi abstrait. Donc, on peut déjà essayer de commencer par associer des notions qui sont donc liées à la créativité, donc l'originalité, l'imagination, l'inspiration, le génie et tout ça. Mais en fait, ce qu'on retrouve beaucoup dans l'imaginaire collectif, c'est que la créativité est liée à la nouveauté. Donc cette nouveauté, elle force en fait une brisure entre le présent et le futur, puisque on tire un trait donc, sur toutes nos idées préconçues, on tire un trait sur tous nos modèles prédéfinis, et on introduit donc un nouveau concept et un objet qui est totalement nouveau, qui amène donc de l'incertitude. En fait, cette nouveauté, elle n'est pas sans limite, parce qu'en fait, elle est restreinte à un carcan qui est encore plus limitatif que celui que j'ai mentionné donc un peu plus haut, qui est donc le contexte. Parce qu'en fait, les idées ne peuvent pas provenir donc d'un vide contextuel. Ça comporte obligatoirement des aspects sociaux, puisque ça implique donc des individus qui sont dans un environnement, à un instant donné, avec une certaine connaissance et dans un certain cadre social. Donc du coup, on peut ajouter que des idées qui apparaissent pertinentes, elles existent qu'à partir du moment donné où elles sont validées par une sorte de communauté et par l'environnement. Du coup, la pertinence, qui est la seconde notion essentielle qui est liée à la créativité, dépend aussi autant de l'époque que de l'idée elle-même. Donc là, on a réussi à dégager deux composants majeurs liés à la créativité, donc la nouveauté et la pertinence. Il s'ajoute un dernier fragment qui c'est tiré de l'étude donc, de Kaufmann et Sternberg. Et ce dernier fragment, c'est la qualité. Donc pour qu'une idée soit créative, il faut qu'elle soit nouvelle, il faut qu'elle soit pertinente et il faut qu'elle soit de qualité. Il est intéressant maintenant de noter quelque chose qui est plus attrait à l'évolution. En fait, c'est qu'une idée qui est innovante et marginale, une fois qu'elle est validée, en fait, elle se transforme complètement et elle devient une sorte de norme. Et là, on voulait citer en fait un exemple qui nous est cher à tous les deux, donc notamment dans le domaine de l'audio, qui est l'exemple des synthétiseurs, puisque au départ, même si aujourd'hui on entend des synthétiseurs absolument partout dans tous les genres de musique, au départ, quand le synthé est sorti, c'était une sorte de bête complètement inconnue. Et du coup, Philippe a trouvé une vidéo qui montre l'exposition. C'était quoi, du premier synthé ou...
C'est la première démonstration publique du système de Bob Moog dans un amphithéâtre, de concert avec un orchestre symphonique derrière qui ne sert à rien. Okay.
Voilà, du coup, on vous laisse découvrir cette petite vidéo de comment les gens réagissent face à cette nouveauté.
But of course, if you happen to be on the side of the purists and you think that's a distortion of the true Bach, wait till you hear the next one, which is a transmogrification of the same fugue again, but on the much talked and written about Moog synthesizer. And here it comes now. Hello, Hal. How about that? What you're going to hear now is that same Bach fugue pre-recorded on a tape which was made by this incredible electronic instrument. It can do anything but stand up and take a bow. It can produce almost any kind of variation on pure sound, including some sounds that have never been heard before, on this earth at least. And these sounds can then be dubbed onto tape in any combination from interplanetary noises to a Bach fugue. And blast off. Thank you.
donc vous allez voir la réaction des enfants, notamment. C'est la première fois que des gens entendent des sons de synthèse.
Ok, voilà, donc ça c'était pour la petite vidéo des gens qui sont un peu hallucinés par l'arrivée du synthé. Du coup, je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière dans l'histoire, juste pour vous faire très très rapidement un petit historique de la créativité. Ce sera vraiment très rapide parce qu'on ne peut pas du tout tout traiter. Mais grosso modo, d'abord donc, et avant tout, l'artiste a été vu pendant très très longtemps selon une vision sous le joug de Dieu, hein, forcément. Donc les artistes, ils étaient créatifs grâce à une intervention divine. Ils pouvaient s'inspirer d'esprit, de muse. Là, je vous ai mis l'exemple du tableau de Hésiode et la muse de Delacroix. Et puis, ça a été le cas jusqu'à à peu près au XVIIIe siècle, où, boum, la révolution scientifique. Et donc là, en fait, on a une séparation de toute cette vision théologiste avec, on se sépare du supernaturel. Sauf qu'en fait, ensuite est arrivée la révolution industrielle dans l'Europe et s'est développé le romantisme. Notamment donc avec Rousseau, qui avait des idées un peu extrêmes sur les artistes, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a eu une sorte de schisme entre donc le scientifique hyper rationnel et l'artiste complètement incompris. En fait, du coup, ces deux choses-là, donc le boom scientifique et le romantisme, ont laissé une trace, puisque jusqu'aujourd'hui, on a encore cette espèce de clivage entre les scientifiques hyper rationnels et les artistes qui sont des sortes de personnalités déviantes. Je voudrais juste rajouter un tout petit aspect à cette frise historique qui est quand même assez intéressant, c'est que le mot créativité, en fait, il est apparu dans la langue française en 1950 seulement. Il vient de l'américain initialement, et donc il est apparu chez les psychologues humanistes et il a été adopté définitivement par l'Académie française dans les années 70. Voilà, donc on a quand même affaire à une notion qui est très très récente, donc assez mal définie. Voilà, donc du coup, au-delà de cet aspect historique, je voudrais revenir sur les rôles de la créativité au niveau de la société. Donc, en fait, la question, c'est quel rôle joue la créativité dans la société et pourquoi est-ce qu'elle est si importante? Ça a été très étudié notamment par Moran, donc c'est une théorie de Moran, qui a réussi à dégager donc deux rôles principaux qui sont l'amélioration et l'expression. Donc, en fait, l'amélioration, c'est quel est l'effet de l'objet créatif sur la société et l'expression, c'est plutôt quel est l'impact de la créativité sur l'individu. Du coup, d'une part, au niveau de cette amélioration-là, on a la créativité qui est vue comme une sorte d'outil qui est nécessaire à l'évolution de la société et de l'humanité. Cette société, en fait, qui serait vue comme une espèce de système qui est en mouvement permanent et qui se nourrit et s'améliore grâce à la créativité. Et du coup, sur cet aspect-là, sur ce rôle-là, on s'intéresse surtout aux résultats créatifs. Alors que de l'autre côté, au niveau de l'expression, on voit donc que la créativité est plutôt vue comme une sorte de vecteur donc d'expression et le processus créatif revêt des aspects un peu cathartiques. Et dans ce cas-là, on ne s'intéresse plus tellement aux résultats, mais plutôt au processus créatif. Donc, à travers tous ces rôles, en fait, on se dégage quand même un élément très, très essentiel, qui est que, quel que soit le rôle de la créativité, elle reste donc une activité qui est transformationnelle. Donc, c'est pour ça qu'on va s'intéresser à cette vue transformationnelle, de la créativité. Donc, notamment à travers cette citation de Newton, que j'ai traduit par « si j'ai vu plus loin, c'est parce que je me suis tenue sur les épaules de géants ». Donc en fait, à travers cette citation, Newton reconnaît simplement que son travail a été possible que grâce à toutes les recherches qui ont été effectuées auparavant. Ça, en fait, ça rejoint du coup cette théorie de la créativité qui s'appelle la théorie évolutionnaire, qui propose en fait un parallèle qui est assez intéressant entre l'évolution génétique et le développement des idées créatives. Donc, cette notion d'idée créative, en fait, elle évolue dans le temps à travers les cultures, et ça se rapporte au concept d'héritage des idées. Et cet héritage d'idées correspond précisément à la théorie du double héritage, qui affirme donc qu'en fait, on n'hérite pas simplement d'informations biologiques, mais on hérite également d'informations culturelles. Donc, en fait, de tout ça, on peut tirer une sorte de process un peu global, enfin, de processus un peu global, concernant la créativité en tout cas, qui est qu'en fait, on parcourt un espace d'idées, qui sont donc les variations. Donc, on parcourt tout cet espace d'idées et on choisit ou non de les sélectionner. Ça, ce serait un schéma très, très schématique de la créativité. Sauf que ça, ça résonne avec quelque chose, c'est que l'une des définitions de l'intelligence, c'est que on peut associer, enfin, c'est que l'intelligence, il s'agit d'associer et de transformer des connaissances existantes. Donc, en fait, ce processus global qu'on vient de dégager et cette définition de l'intelligence nous permet en fait de faire un premier lien entre ces deux notions, et c'est ça qui nous intéresse, enfin c'est ça qui nous a intéressé en tout cas dans cet article. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est pouvoir distinguer ces deux notions de manière très délimitée. Donc ça fait appel à la mesure, puisque si on veut pouvoir délimiter ces deux notions, il faut pouvoir les mesurer. Là, on rentre dans le problème donc, de la théorie de la mesure et notamment les études psychométriques, puisqu'on on étudie en fait des sujets qui sont subjectifs. Donc, on a trois problèmes principaux, la fiabilité, la validité et la validité discriminante. Donc, notamment la fiabilité, elle fait appel à l'accord et la cohérence. La validité, c'est la précision des mesures. Encore une fois, on mesure quelque chose qui est difficilement quantitatif. Et la validité discriminante fait appel, donc, en fait, on se demande si les résultats qu'on a sont pas contaminés par d'autres facteurs. Il existe une grande théorie, en fait, il en existe énormément, mais elles viennent toutes plus ou moins de cette grande théorie originale, qui est le test de Torrens. Ce test de Torrens qui pourrait donc permettre de mesurer l'intelligence / la créativité, en fait, mesure exactement la pensée convergente et la pensée divergente. Ce test, il est fait de beaucoup de questions très ouvertes. On peut demander, par exemple, aux patients, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un patient, mais on peut demander aux candidats d'essayer d'imaginer un nouveau rôle pour une boîte en carton, ou alors de rendre un jouet plus amusant, enfin voilà. Puis on peut lui poser des questions ouvertes, enfin c'est un test qui est quand même qui balaye tout un champ possible. Et du coup, je voudrais me pencher un tout petit peu plus sur cette idée de pensée convergente et pensée divergente, puisqu'en fait, les deux définitions, elles vont nous amener à un résultat qui est assez intéressant. Donc, je vous rappelle juste que la pensée convergente, c'est quand on s'intéresse à un problème qui a une seule solution, donc une solution simple, alors que la pensée divergente, c'est quand on peut avoir comme résultat un large panel d'idées. Donc, si on essaye de faire des parallèles donc, entre la créativité et l'intelligence et ces deux pensées différentes, on peut voir que grossièrement, mais extrêmement grossièrement, on a pensée convergente qui correspond plus ou moins à l'intelligence et pensée divergente qui correspond à la créativité. Alors ça, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, on a au sein de la créativité, on a quand même énormément de choses qui peuvent être aussi créatives et correspondre aussi à une pensée convergente. Donc, évidemment, ça, c'est extrêmement schématique, mais ça a été un peu notre premier appui, en tout cas pour ce papier, ça a été de départager ces deux choses, en sachant bien sûr que c'est très schématique, mais ça nous a amené à nous poser donc, ces deux questions fondamentales, qui est, donc on peut se demander maintenant, quelle est la place de l'IA dans le processus créatif? Est-ce que cette IA est contrainte à la pensée convergente? Et surtout, si on arrive à créer une IA qui pourrait répondre à une pensée divergente, est-ce qu'on arriverait en fait à créer notre objectif qui n'est non plus une intelligence artificielle, mais une créativité artificielle. Du coup, je laisse la parole à Philippe.
Ah, merci beaucoup. Donc, merci Ninon d'avoir présenté la partie la plus périlleuse de notre article, parce que c'était la partie littéraire, élégante, intellectuelle. Et maintenant, c'est l'heure de vous casser le crâne, parce que c'est l'heure de faire des maths. Ah. Donc, là, maintenant, c'est un peu cette approche qu'on avait qui était de commencer à essayer d'insuffler à l'intérieur de cette vision sociologique comment projeter des maths à l'intérieur d'une vision sociologique. Donc, si on reprend ces deux notions, l'idée de la pensée convergente, c'est une forme de génération déductive, c'est-à-dire qu'on a un problème, il y a une solution optimale. Donc, en mathématiques, on parle de bijection. Une bijection, c'est quoi ? C'est quand on a un espace de problème. À l'intérieur de cet espace de problème, on sélectionne un problème. Et à ce problème correspond, dans un espace de solution, une seule solution. Si on a un autre problème, dans ce cas-là, cet autre problème a une autre solution. Et donc, si c'était une bijection, on pourrait même retrouver le problème à partir de la solution. La pensée divergente, à contrario, ce qui est peut-être un premier élan vers la créativité, c'est la possibilité, à partir d'un des problèmes de notre espace de problème, de générer un ensemble de solutions potentielles. Et cet ensemble a une notion d'optimalité qui est complètement différente. Donc, l'exagération énorme qui est faite, ce serait de dire l'intelligence, c'est la convergence, la bijection, et la créativité, c'est la divergence avec une notion d'optimalité différente. Donc, pourquoi c'est aussi dur de réfléchir à ces questions quand on parle d'apprentissage automatique ? Donc, l'intelligence artificielle, c'est un terme un peu fourre-tout. Actuellement, ce qui est vraiment fait, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage automatique. Donc, soit d'une manière supervisée. Supervisée, ça veut dire qu'on montre plein d'exemples avec plein de solutions. On essaye d'apprendre la relation entre les deux. Soit non supervisé, où on donne juste des exemples, on essaye de comprendre la structure de ces exemples. Mais dans ces deux cas, ce qu'on fait vraiment, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Alors, je vais vous montrer des maths, je vais essayer de vous faire la manière douce et vous expliquer que les maths, c'est une langue comme les autres, et plus on apprend des langues, plus on sait en parler. Donc là, ces signes barbares grecs, tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est que X, c'est des choses qui existent, et on essaye de les mettre en lien avec ce Y. Le chapeau, il nous dit que ce Y n'est pas juste. C'est un Y approximatif. Et pour passer de X à Y, on est obligé d'appliquer une fonction. Cette fonction dépend de paramètres θ. Donc, qu'est-ce que c'est les paramètres θ ? Vous pouvez imaginer un synthétiseur ou un four à micro-ondes. L'idée, c'est qu'on va changer les réglages de cette fonction pour que son application se rapproche de la réalité. C'est-à-dire, on évalue la qualité de notre fonction sur laquelle on a des boutons qu'on peut tourner, ce θ, et on va essayer de voir à quel point on s'approche de la solution. Donc, l'idée, c'est de modifier petit à petit nos réglages jusqu'à ce qu'on ait une solution qui soit la plus proche de la réalité. Mais donc ça correspond très clairement à une forme de bijection. On applique notre fonction à notre entrée, on obtient une solution. Donc, est-ce qu'on est obligé, dans l'apprentissage automatique, d'avoir que de la pensée convergente ? Non, et ça m'oblige un peu à vous introduire un autre truc assez barbare qui s'appelle l'apprentissage automatique probabiliste. Donc maintenant, imaginez que vous avez plein d'exemples de quelque chose. On va se demander, est-ce que ça suit une forme de distribution ? Qu'est-ce que c'est une distribution ? C'est juste la répartition. En ce moment, on voit des distributions partout, donc ça va, je n'ai pas besoin de vous en montrer trop. Mais imaginez que vous voulez créer un nouvel individu. Et quand vous créez un individu, vous devez choisir sa taille. Sa taille a peu de chances d'être dans les nombres négatifs, elle a peu de chances d'être au-dessus de 2,50 m. Donc vous avez généralement cette belle courbe qu'on appelle une gaussienne. Une gaussienne, si on connaît les paramètres de cette gaussienne, qui va être notre but, on peut générer à l'infini des nouveaux individus. Ça veut dire qu'on va tirer à l'intérieur de cette fonction des nouvelles choses qui suivent la même tendance que les autres. Et donc ça, on peut le faire pour plein de dimensions. Et avoir accès à ça, en fait, ça nous permet d'avoir une certaine granularité assez fine sur la compréhension d'un problème. Mais donc, vous voyez aussi que ça nous permet de générer à une même question, donc un nouvel individu, un ensemble de solutions potentielles. Donc, comment on fait pour définir un problème discriminatif ? C'est-à-dire un problème où on cherche une solution par rapport à une entrée, eh ben en fait, on va avoir ce qu'on appelle une fonction probabiliste, donc une distribution de probabilité. C'est elle qui nous permet d'évaluer à quel point une solution est possible étant donné une entrée. Mais vous voyez qu'ici, j'introduis un autre signe barbare, ce qu'on appelle une intégrale. Donc, une intégrale, c'est quoi ? C'est juste quelque chose qui nous permet de faire un peu la moyenne, donc de savoir la somme à travers une certaine dimension. C'est-à-dire que notre solution est optimale à travers ces fameux θ, ces réglages, c'est-à-dire qu'on va avoir une capacité de savoir à quel point notre solution est bonne à travers l'espace des possibles. Et donc, pourquoi ça nous intéresse tant, ce truc ? C'est parce que plutôt que de donner une solution possible, un futur possible, par exemple, à une fonction, c'est-à-dire quelque chose qui bouge comme ça, où on donnerait une solution potentielle, on va pouvoir donner tout un ensemble. Et donc, en plus de donner tout un ensemble, on va pouvoir modéliser l'incertitude de notre problème. Donc maintenant, nous, ce qui nous intéresse particulièrement, à la fois dans notre équipe et dans cet article, c'est la question qu'on appelle de modèle génératif, qu'a présenté Ninon au tout début de notre présentation. Donc, le problème génératif, c'est vraiment connaître ces distributions pour créer des choses. Et donc, l'idée, c'est que de base, c'est sûrement trop compliqué de résoudre le problème directement, de dire créer un individu, oui, mais comment ? Parce qu'une distribution d'individus, une distribution de taille, c'est relativement simple, mais une distribution de toutes les propriétés d'un individu, c'est compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un nouvel ensemble. Cet ensemble est plus petit. On appelle ça des variables latentes. Donc, les variables latentes, c'est aussi un autre ensemble qui nous permet de, quelque part, conditionner, c'est-à-dire gérer les détails fins en n'utilisant que des choses assez haut niveau. Donc, par exemple, ici, si je dis que j'ai des variables haut niveau qui contrôlent des choses plus bas niveau, je peux par exemple générer des visages en fonction de l'expression. Donc, je peux mettre des personnes joyeuses ou des personnes neutres. Donc, l'intérêt de faire ça, c'est qu'on a maintenant accès à une forme de contrôle assez haut niveau de notre système de génération. Donc, je vais introduire un truc très, très barbare, je ne vais pas vous l'expliquer. L'idée, c'est que pour essayer d'optimiser cette chose, qui est toujours à travers toutes les possibilités de nos variables de contrôle, donc en intégrant à travers toutes ces variables un peu haut niveau, on va essayer d'optimiser étant donné en fait une approximation. Et ça, ça va être très important pour la suite de notre article. Donc, désolé pour cette formule barbare, là, j'abandonne, je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est... en fait, ça va me prendre trop de temps. Mais si vous voulez, à la fin, je peux revenir et expliquer calmement ce que ça veut dire ce truc. Ce qui est important, c'est que maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment on va pouvoir projeter ces mathématiques à l'intérieur de quelque chose qui est un test de créativité. Donc, je reviens à ce que disait Ninon, le test original sempiternel de la créativité, de Torrens, ça utilise un ensemble de critères pour mesurer si une personne est créative ou pas, ou si des réponses sont créatives ou pas. Et donc, en fait, il y a plein de sous-critères. Il y a le critère de la fluence, qui est tout simplement le nombre de réponses données à une question. Donc, par exemple, trouver une nouvelle utilisation d'une boîte, si on en trouve 200, c'est mieux que 100. Il y a l'originalité de ces réponses, donc à quel point elles sont inhabituelles. La flexibilité, donc c'est-à-dire à quel point elles divergent les unes des autres, à quel point il y a de la variance à l'intérieur. L'élaboration, qui est la quantité de précision et de détails qui sont donnés sur cette idée. Et l'abstractness, donc le niveau d'abstraction qui est donné dans cette idée. Donc, est-ce qu'on se contente de détails fins ou est-ce qu'on va voir un peu plus haut? Et il y a plein d'autres critères qui dépendent essentiellement du domaine dans lequel on va appliquer ça. Donc, l'idée, c'est que ces critères-là, ils vont être généralement regroupés entre les points d'innovation, donc innovation dans le sens de pensée divergente, l'adaptativité et ensuite les forces créatives. Et évidemment, il y a de la perméabilité entre ces notions. Donc, la question, c'est comment ces notions probabilistes viennent traiter de ces critères. Donc, c'est-à-dire, si on prend par exemple le côté innovant de la créativité. Donc, rappelez-vous que ce qu'on modélise, c'est un ensemble. Cet ensemble, bah, en fait, on peut tirer autant de réponses qu'on veut. Donc, on pourrait avoir un score parfait dans la question de l'affluence parce qu'en fait, un ordinateur n'a pas de limite sur une quantité de réponses et même d'ailleurs sur la vitesse à laquelle il est produit. La deuxième chose, c'est qu'en fait, la variance, on peut aussi contraindre la manière dont on va aller piocher dans cette distribution. On a conscience de où sont les idées. Donc, on peut très bien forcer le système à partir sur les bords les plus variants de notre distribution. Mais ce raisonnement, il a deux grosses fautes conceptuelles. Le premier, c'est qu'on fait un choix qui s'appelle le choix de l'échantillonnage aléatoire. Et ça, c'est déjà un choix humain sur le processus de génération. Donc déjà, en fait, on a introduit une notion humaine. Et ensuite, le problème, c'est qu'on va faire un échantillonnage, mais dans une distribution qui est prédéfinie. Donc en fait, nos exemples, ils vont rester très contraints, très consistants avec les observations qu'on a à la base. Donc d'une certaine manière, l'apprentissage automatique, c'est quand même de manière inhérente limité par le modèle qu'on choisit, les exemples qu'on observe et quels critères on va utiliser pour échantillonner. Donc maintenant, si on prend les autres critères du test de Torrens, c'est sur l'élaboration, donc la précision et le niveau d'abstraction. Et en fait, c'est là qu'on va toucher au vrai problème de la projection de l'ensemble probabiliste sur ces notions. En fait, quand on va optimiser, entraîner nos données, on va utiliser ces deux choses. Donc, encore une fois, signe barbare qui ne veut pas dire grand-chose, en fait. Ce signe, ça veut dire l'espérance d'une distribution. Qu'est-ce que ça veut dire l'espérance? C'est à peu près la moyenne. Okay, c'est la moyenne pondérée par la distribution des données. Donc, ce qu'on va faire, en fait, quand on optimise un problème de machine learning, c'est qu'on ne peut pas optimiser un seul exemple parfaitement. Okay, on a trop d'exemples à observer. Donc, en fait, ici, on va se limiter à quantifier les données qu'on observe et le modèle. Et en fait, ce qu'on demande vraiment, c'est de trouver une moyenne raisonnable de notre problème. Donc, si on imagine, si je reviens à cette notion de « on a des choses qui sont distribuées sur une certaine dimension », si vous prenez ce genre de forme, donc imaginons qu'on a des êtres humains qui sont entre 50, je ne sais pas, très peu de centimètres et très grands, et d'un coup, en fait, il existe des êtres humains qui en font 10 mètres. Pardon. Un problème de machine learning, ici, on va avoir tendance à faire ce qui s'appelle du mode collapse, c'est-à-dire ça va être beaucoup plus simple d'optimiser cette énorme distribution en moyenne que d'arriver à aussi optimiser cette espèce de petit ersatz qui traîne. Et le problème, c'est qu'ici, en fait, comme l'a expliqué Nino tout à l'heure, les approches computationnelles, on aimerait qu'elles soient non limitées par le contexte. Et en fait, quand on parle de contexte, là, j'aimerais bien introduire une idée qui m'est un peu chère. Ça fait quelques temps que j'introduis cette idée à tort et à travers. C'est le principe de l'excentricité de la norme. Donc, ça vient d'un article que j'avais lu il y a quelques temps dans Courrier International, je crois. Donc, l'idée, c'est de se représenter les idées, qu'elles soient créatives ou non, comme gravitant autour d'une forme de norme. On a toujours des normes pour la science, la musique, les arts, etc. Et il y a énormément d'idées qui gravitent autour de cette norme. Donc, si vous prenez par exemple la musique électronique, vous avez une forme de norme et il y a des idées en rapport avec la musique électronique qui sont plus ou moins loin. Donc, en fonction de la distance avec cette gravitation autour de ce centre d'attraction, elles vont être plus ou moins proches de la norme. Alors, je vous rassure, je ne suis pas en train de faire un truc très dystopique. Il n'y a pas une norme pour l'ensemble de toutes les idées. L'idée, c'est qu'il y a plutôt une espèce de constellation de plein de normes locales. Donc, qui pourrait correspondre à des sous-genres de musique. Si vous regardez la recherche scientifique, c'est pareil. En ce moment, il y a une énorme norme autour des réseaux de neurones profonds, énormément d'idées qui gravitent autour de cette norme. Le problème, c'est que quand il y a une nouvelle idée, elle va avoir tendance à être excentrique, excentrique sans norme. Et on pourrait dire qu'elle est folle à traîner là-bas toute seule. Elle est beaucoup trop loin de ce qu'on a l'habitude de faire. Et en fait, petit à petit, si cette idée commence à attirer d'autres idées, il va y avoir ce qui se forme, une forme de groupe excentrique orbital, c'est-à-dire un groupe qui partage cette petite norme mais qui est encore loin de tout. Cette norme, elle peut se déplacer. Et cette norme, elle peut aller jusqu'à attirer vers elle d'autres normes. Et donc, cette notion excentrique, elle peut commencer à grandir et petit à petit même déplacer certaines autres normes, même si certaines idées ou personnes restent complètement fermées au changement, comme c'est toujours le cas. Au bout d'un moment, peut-être, cette idée excentrique va créer sa propre norme. Et cette norme va vivre indépendamment de l'ancienne norme qui reste. La question, si on parle de créativité, on aimerait quand même quelque part modéliser, peut-être pas l'idée excentrique, mais au moins le groupe excentrique. Donc, comment on pourrait modéliser cette chose excentrique et pourquoi c'est aussi dur en apprentissage automatique, notamment avec ce que je viens de vous expliquer, qu'on calcule des moyennes. Donc là, j'en viens à la partie 2. Et en fait, là, on va vous présenter l'idée un peu majeure du papier, qui a été aussi l'idée qui a été poursuivie depuis très longtemps dans le domaine de l'apprentissage automatique. Et on va essayer de saupoudrer à travers cette présentation des exemples d'articles qu'on a publiés autour de ces sujets, mais dans les aspects plus scientifiques, mathématiques. Donc, ça sera des allers-retours incessants. Donc, voilà, désolé si c'est un peu fouillis, mais on va préférer la vivacité à la clarté. Donc, qu'est-ce que c'est la réification mathématique des idées? Alors, je vous préviens, c'est un concept qu'on a un peu inventé. Je ne crois pas que ce soit un concept adoubé quelque part. L'idée, c'est qu'on va essayer de reproduire. Donc, la réification, ça veut dire prendre un concept et essayer de le mathématiser. Est-ce qu'on peut prendre n'importe quoi et en faire un algorithme, si vous voulez? Et c'est vraiment quelque chose qui a été un processus de traduction en termes computationnels qui est la source d'avancement principale qui a servi dans le domaine de l'IA depuis des années. Et donc, quand on regarde les études de créativité maintenant, c'est-à-dire que si on va prendre dans les études de créativité quels sont les mécanismes qui devraient être traduits en termes mathématiques, on a d'un côté la notion que faire de la créativité, c'est se baser déjà sur de l'information, donc avoir une source de savoir, comme disait Ninon, prendre du savoir, être sur les épaules des géants, et opérer sur ce savoir, donc récupérer, analyser, modifier. Donc, de manière plus précise, d'un côté, celui de l'information, on a l'organisation de cette information et de ses structures, la manière dont on va aller piocher dans l'information, la manière dont on l'analyse, la manière dont on la transforme. Et dans ce cas-là, même si c'est du côté information, c'est la transformation d'une idée et non pas de plusieurs entre elles. Parce que les opérations, maintenant, c'est la modification d'idées entre elles, l'association, les analogies d'un domaine vers l'autre et l'abstraction, essayer de généraliser. Donc, on va voir un peu toutes ces catégories de manière succincte. Tout d'abord, cette notion d'organisation de l'information. Désolé. Donc, l'idée, c'est qu'on construit avec l'information des structures, des hiérarchies. On est obligé de mémoriser, donc on est obligé d'organiser l'information. Qu'est-ce qui se passe au niveau neural ? En fait, au niveau neural, il a été montré par des études de neurosciences que des neurones qui sont voisins encodent les mêmes micro-caractéristiques. C'est-à-dire que la distance entre neurones, d'une certaine manière, donne une distance d'idéation sur des micro-caractéristiques. Ce qui permet en fait d'avoir une représentation distribuée où on va faire des transitions d'une représentation très grossière de l'information, des bords, etc., à des choses plus fines. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est exactement aussi ce qui s'est passé d'après pas mal de théoriciens sur la manière dont les représentations biologiques, cette fois-ci, ont évolué. D'après Deacon, par exemple, l'idée, c'est que petit à petit, donc là, on parle du développement humain sur des milliers ou dizaines de milliers d'années, on a commencé par avoir des représentations neurales iconiques. Iconiques dans le sens, on commence par uniquement stocker des propriétés visuelles ou physiques des objets. Puis, petit à petit, on a construit des structures indexicales. Donc, c'est-à-dire qu'on va représenter un ensemble de propriétés par un index dans une forme de table de hachage, pour ceux qui aiment l'informatique. Et en fait, petit à petit, on a évolué vers des représentations dites symboliques. Donc, la représentation symbolique, c'est quelque chose comme le langage qui n'a aucune similarité avec l'objet. C'est vraiment, on va être capable d'associer un ensemble de concepts avec un mot qui représente ce concept. Et donc, l'idée, c'est que plus on a des représentations haut niveau, plus il est facile de trouver des corrélations qui sont de plus en plus abstraites des propriétés physiques de l'objet. Dans l'article, on traite aussi de tout un truc sur les visions occidentales ou orientales que je trouve passionnantes et le rapport à la théologie. Bref, on a une autre théorie complètement barrée là-dessus. Si vous voulez en parler, c'est l'éclate. Bref. Et donc, en fait, comment ça se traduit ça dans les recherches actuelles ? En fait, il y a tout un domaine de l'apprentissage automatique qui s'appelle l'apprentissage de représentation profonde. Et en fait, cette idée de hiérarchie, c'est exactement ce qui a permis la révolution du machine learning tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, le principe du deep learning, c'est en réalité d'essayer de comprendre des propriétés partagées par des objets qui n'ont a priori rien à voir entre eux. Avant, on prenait un problème et on essayait de le résoudre un par un. L'idée dans l'apprentissage profond, c'est de se dire que quelque chose comme des visages, ça va partager quand même des propriétés avec les voitures et avec les chevaux ou les chèvres pour Axel, ou les chaises par exemple. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, en réalité, on a un ensemble de bords. Et donc, bon, ici, c'est noir et blanc. Désolé, je n'ai pas de poulet coloré, mais vous voyez l'idée, c'est que tout est basé sur cette notion d'avoir pour tous les objets de type image des propriétés bas niveau très partagées. Et donc ça nous amène à un truc très intéressant, c'est comment ça marche nos neurones. Qu'est-ce que ça fait un neurone d'un point de vue mathématique pour le reprojeter en arrière ? D'un point de vue mathématique, c'est le modèle de McCulloch et Pitts. Un neurone, en fait, c'est juste un truc qui stocke de l'électricité. Donc, il y a de l'électricité qui arrive par les dendrites. Et plus la taille des dendrites est grosse, plus elles vont amener de larges doses d'électricité. Et si cette quantité d'électricité est supérieure à un certain seuil, dans ce cas-là, on décharge un train d'impulsion dans l'axone qui va devenir, à la suite, des dendrites d'un autre neurone. Donc, en termes mathématiques, ça se représente comme ça. C'est juste la somme pondérée des x, donc on prend des x, on les multiplie par des choses, on fait une somme et on regarde est-ce que c'est au-dessus d'un truc. Ça s'écrit d'une manière très simple comme ça. C'est y égale somme des wx plus t. Donc maintenant, si je simplifie ce truc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors là, j'ai essayé la formule la plus simple, je pense qu'on la connaît tous, mais je vais changer les termes encore. Y égale ax plus b. Un neurone, ça calcule y égale ax plus b. Et donc, pour ceux qui ont de vagues souvenirs du collège, en réalité, ça, c'est une droite. C'est une droite, ce qui veut dire que quelque part, un neurone passe son temps à diviser l'espace. Il divise l'espace sur est-ce qu'un ensemble de caractéristiques se retrouve ou pas. Et donc, je vous rassure, on ne fait pas que des droites, parce que y égale ax plus t, vous voyez que ça implique que j'aurai qu'un dendrite par neurone. J'ai plein de dendrites par neurone. Donc, ce que je calcule en réalité, c'est un hyperplan. Un hyperplan, c'est tout simplement la généralisation d'un plan. C'est bien les maths, il y a des termes hyper compliqués pour pas grand-chose. C'est juste un plan dans un espace avec plein de dimensions. Maintenant, si on généralise, en fait, en réalité, ce que font nos neurones, c'est quelque chose d'encore plus intéressant. Si je prends la forme complète de cette équation de transformation, en réalité, un neurone, il tire et il tord l'espace de manière incrémentale, comme ça. C'est-à-dire que chaque neurone va permettre de tordre et séparer l'espace jusqu'à ce qu'on obtienne un espace très simplifié. Et ça, ça se voit même sur des réseaux très complexes. Et en fait, ça, c'est génial parce que ça nous amène donc au point principal de nos recherches actuelles dans l'équipe ACID, qui s'appelle l'hypothèse du manifold. L'hypothèse du manifold, c'est quoi ? C'est que, oui, ma figure est extrêmement moche, en fait, désolé, mais vous pouvez vous représenter la question comme le problème d'une feuille de papier. J'aime beaucoup cet exemple, donc si vous pouvez, pendant 2 secondes, regarder la caméra, voilà, ça ne sert à rien. Donc imaginez une feuille de papier, regardez plutôt ma caméra que la présentation, ok, donc on est d'accord, hein, une feuille de papier, c'est un objet en 2D. C'est quelque chose qui n'a pas de profondeur. Admettons, ça n'a pas de profondeur. C'est un papier qui est parfaitement nul sur sa tranche. Okay, donc ici, j'ai que 2 dimensions d'information. Maintenant, si je fais ça, cet objet, si on le regarde, il a l'air d'avoir 3 dimensions. Okay, il a des contours, il a de la profondeur, il a toutes ces dimensions qui ont de l'information. Mais en réalité, l'objet sous-jacent, le vrai objet qu'on veut comprendre, il est toujours en 2 dimensions. Okay, ce qu'on doit chercher à faire, c'est le déplier pour petit à petit arriver à retrouver l'organisation de la structure sous-jacente à notre information. Donc voilà, vous pouvez retourner à ma figure moche. Donc ça, c'est un problème qui va être très, très intéressant pour les problématiques créatives. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est prendre un truc qui est dans un espace très compliqué, des visages, des sons, de la musique. Et ce qu'on cherche, c'est est-ce qu'on peut trouver cet espace super simple dans lequel, si on arrive à découvrir toujours cette fameuse fonction avec des boutons qui tournent pour arriver à passer de l'un à l'autre, ou une distribution de probabilité, bah dans ce cas-là, on a quelque chose d'organisé. Par exemple, ici, c'est vraiment un résultat de recherche où, en prenant plein de visages, on a des mécanismes qui nous permettent de découvrir automatiquement des dimensions principales de variation de l'information. Et donc, si on a ça, ce qui est assez génial, c'est que généralement, on peut inverser notre fonction ou on peut trouver la distribution inverse. Et ça, ça nous permet de générer et donc de créer à partir de ces espaces plus simples. Donc, ici, j'avais une slide de maths très barbare. Je vais la passer. Je vais juste vous dire qu'il y a un truc qui s'appelle l'auto-encodeur variationnel qui fait exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va prendre l'information et qui va la comprimer. Donc, cette notion de passer d'un truc complexe à un truc simple. Et ensuite, une fois qu'on a ce truc complexe, pardon, une fois qu'on a cet espace simple, donc l'espace simple et bien organisé, on va pouvoir apprendre à décoder, c'est-à-dire prendre un point de l'espace simple pour générer un truc compliqué. Donc, si jamais vous voulez qu'on discute des maths, j'y reviendrai plus tard parce que c'est un peu intense ici. Ça, on l'a appliqué il n'y a pas très longtemps. Désolé, ouais, j'avance. L'idée, c'était d'essayer d'obtenir un espace des sons instrumentaux qui colle à notre perception humaine. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut comprendre la perception humaine à travers ces modèles ? Est-ce que les modèles vont vraiment ressembler à la manière dont nous, on organiserait la similarité dans des espaces simples. Donc, vous avez ce truc qui s'appelle les espaces de timbre. Les espaces de timbre, c'est quelque chose qui vous permet de voir à quel point des instruments sont similaires entre eux. Donc, ce que vous voyez ici à droite, c'est l'organisation de différents instruments dans un espace à 3 dimensions. Sauf que ici, ce truc, il a été fait en demandant à des gens de noter la similarité entre les instruments. Et il ne permet pas du tout de générer. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment construire un espace qui soit génératif. Ça veut dire non seulement on va avoir quelque chose qui colle à la perception humaine, mais on va pouvoir même créer tous les instruments hybrides qui existent entre ces instruments. Okay, donc, par exemple, ici, ce qui se passe, c'est que je vais prendre un instrument entier, donc tout un son. Un son, c'est beaucoup d'informations, hein, c'est énormément de points, c'est une forme d'onde, donc ça prend plein de points. Et en fait, on le comprime vers quelque chose qui fait uniquement 3 points. Et on est capable ensuite de reconstruire, donc par exemple ici, une clarinette. Donc ce son qui représente, puisque c'est 2 secondes et quelques, non, c'est 4 secondes, donc ça représente quelque chose comme 1 million de dimensions, on le réduit à 3 points, on est quand même capable de le régénérer. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que maintenant, on peut essayer de créer des transferts, donc d'essayer de créer des hybrides dans cet espace simple. Donc là, ici, on hybride avec un piano. Vous allez entendre, au début, on va entendre le marteau. Et ce marteau qui vient du piano, on aura quand même aussi cette sensation de frotter ou de souffler par-dessus le piano. Donc voilà, cet article a reçu le prix de la meilleure présentation à l'ISMUR 2018. On est très très contents, c'est un joli boulot. Voilà. Quelque chose d'aussi assez fou, c'est qu'en fait, en utilisant ça de manière automatique, le modèle va être capable de découvrir des organisations à l'intérieur de l'espace qui collent parfaitement avec la perception. Ici, on n'a pas du tout informé ce qu'était le spectral centroïde, qui est une propriété du son qui est très importante. C'est un peu la brillance du son, si vous voulez. Et en fait, le modèle organise automatiquement. Donc là, on traverse l'espace et on voit qu'on a organisé de manière linéaire ces descripteurs qui sont pourtant inconnus du système. Donc maintenant, pour passer à d'autres opérations, donc là, je reviens sur les différentes opérations possibles. Quels sont les mécanismes pour accéder et récupérer cette information? Donc, ça dépend énormément de l'organisation qu'on vient de faire. Il y a un modèle par Ward, donc encore une fois sociologie, qui s'appelle le modèle de la moindre résistance. Donc, c'est-à-dire qu'on irait chercher des exemples plutôt basiques en premier pour ensuite remonter la chaîne des exemples petit à petit. Donc l'idée, c'est que la représentation peut servir avec comme une espèce de fonction de vraisemblance de la récupération. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en IA, ça existe un peu déjà. C'est ce qu'on appelle les mécanismes d'attention. Donc le mécanisme d'attention, c'est de se dire on a plein d'informations. Quand on va essayer de générer quelque chose, on va commencer par essayer de savoir qu'est-ce qui est important dans cette information. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a utilisé aussi pour faire ce qui s'appelle de l'orchestration projective. Donc en fait, l'orchestration, c'est l'art d'écrire des pièces pour orchestre. Donc par exemple, un exemple très connu, c'est Moussorgsky qui a écrit les tableaux d'une exposition. Et Ravel a pris cette partition piano et l'a adaptée pour un orchestre symphonique complet. Donc, on a utilisé des systèmes un peu avancés d'apprentissage prédictif, mais avec de l'attention. Et donc, voilà un exemple de résultat. L'idée, c'est qu'on va lui passer une pièce pour piano. Donc là, j'accélère un peu. Voilà le résultat pour orchestre. Donc voilà, vous voyez que le modèle est capable quand même de générer quelque chose qui est très logique et assez sensible à la partition pour piano. À savoir que ça, c'est pour l'instant juste comment on va récupérer de l'information existante. Maintenant, ce qui pourrait aller plus loin et qui vient aussi des sciences sociales qui n'a pas vraiment été encore résolu, c'est le principe de l'analogie. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut projeter du savoir existant sur un nouveau domaine? Et donc, l'idée du raisonnement analogique, c'est quand même de connecter des domaines d'une manière assez forte. Pour l'instant, vous avez sûrement vu des trucs qui ont tourné à mort sur ce qu'on appelle du transfert de domaine. Donc, la tâche du domaine de transfert, c'est vraiment de dire, voilà, je prends une image source plus un style et j'obtiens un truc. Donc ça, vous avez dû tous voir ou faire, vous avez dû vous marrer, faire vos photos de profil avec. Mais en fait, ça, c'est vraiment juste sur des propriétés perceptives bas niveau. C'est pas vraiment des aspects conceptuels. Donc, de notre côté, on a fait de la recherche sur ça aussi. L'idée, c'est un modèle qui a été publié il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Differentiable Digital Signal Processing, où on va essayer d'imiter des synthétiseurs dans l'apprentissage, toujours avec cette notion de compresser l'information, avoir un espace simple, et essayer dans cet espace simple de faire des transferts d'un domaine à l'autre. Donc voilà des exemples un peu simples qui viennent de l'article originel, où on va prendre où les auteurs prennent une voix.
Somewhere over the rainbow.
On va transférer ça vers du violon. Donc on dit juste, prends cette voix et fais-en un violon. Voilà, j'accélère pour vous montrer aussi le truc. Nous, on a donc continué dans cette taxe. Et un exemple qui a été fait par le magnifique Antoine Caillon, qui est pour moi un exemple les plus stylés qui existent, c'est de prendre donc la track Get Lucky de Daft Punk. Et en fait, les voix de cette track vont être transférées, mais vers un jeu de données qui correspond à des grattements, des bruits de perceuses. Donc, on a pris des bruits de perceuses, des bruits de grattements de table, des choses bien bruiteuses. Et on demande en fait que la voix soit transformée en bruit de perceuse automatiquement.
Attends.
donc ça, c'est aussi, je trouve, un exemple que j'adore. Ou alors, bon, le modèle est beaucoup plus compliqué, donc je ne vais pas le présenter, mais c'est basé sur les mêmes notions. Et là, ce que vous allez entendre, c'est Céline Dion qui chante. Et en fait, on essaye de lui faire faire du growl. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le growl, c'est dans le death metal, c'est une forme de chant où on va faire des cris et des grattements, type comme ça, très gutturaux. Donc, vous allez entendre, ça marche en temps réel. Donc, vous allez voir Céline qui chante. Et en fait, petit à petit, on va la transmettre en temps réel. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. There are my stars, and don't voilà, ouais, ouais, c'est quand même vachement mieux que l'original. Donc, la question maintenant, c'est est-ce qu'il reste des opérations qui ne sont pas accessibles dans toutes les notions qui ont été développées dans la sociologie? Et c'est vrai que le principe d'association de savoir existant, c'est encore quelque chose qui est trop complexe de mettre en lien des idées qui sont vraiment hétérogènes. On a quand même, pour l'instant, je pense, pas de systèmes qui sont capables de faire de la pensée jamesienne l'idée d'entretenir en même temps deux idées qui soient vraiment contradictoires. Et donc, ça a l'air extrêmement complexe. Et donc, en suivant les principes classiques, ça sera sûrement possible un jour. Et la question de l'abstraction aussi, qui est vraiment un peu difficile à définir, puisque ça touche au raisonnement logique. Donc là, j'accélère parce que j'aimerais vous présenter les deux. Je sens qu'il nous reste, il nous reste genre 5-10 minutes et il me reste quelque chose comme 40 slides. Donc, je vais plutôt vous présenter, en fait, les derniers résultats sur lesquels on a travaillé. On essaye de redéfinir la relation avec l'IA, c'est-à-dire que y a toujours cette espèce de gros schisme entre ce qu'attendent les gens de l'IA. Donc, quel est le rôle et la place de l'IA dans le processus créatif? D'un côté, on a toutes ces recherches que je trouve nulles, qui ne m'intéressent pas du tout personnellement, sur ce qu'on a appelé les générateurs autosuffisants. C'est-à-dire un générateur autosuffisant, c'est les exemples qu'on entend partout, à la radio, à la télé, tout ça, sur l'IA, c'est génial. Sauf qu'en gros, il y a un énorme bouton créé, et on tape sur ce bouton créé et on attend et on admire passivement la création. Alors qu'en réalité, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que l'IA, ça reste un outil. Donc même s'il est extrêmement complexe, c'est un peu comme un pinceau très compliqué. Et donc dans ce domaine, il y a quelque chose de très clair, c'est les synthétiseurs. Les synthétiseurs, donc je vais passer un peu rapidement sur la formulation du problème. L'idée, c'est qu'un synthétiseur, c'est quelque chose qui génère de manière assez complexe. C'est-à-dire, encore une fois, on a énormément de contrôle pour créer un son. L'idée, c'est qu'il y a des modèles qui ont essayé de comprendre comment ça marchait. Et ces modèles, ce qu'ils proposaient, c'était de prendre de l'audio, de le transformer et en fait d'essayer de deviner quels vont être les paramètres du synthétiseur qui ont créé ce son. Le problème de toutes ces approches, c'est que généralement, c'est des choses qui utilisent une opération qui n'est pas différenciable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traverser ce système de synthèse dans l'autre sens. C'est généralement lent, tout est traité de manière égale, il n'y a pas vraiment de contrôle. Donc, je vous rassure, ça, c'est l'introduction d'un article que j'ai publié il n'y a pas très longtemps, dont je suis assez fier. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a plein de problèmes pour vous dire qu'on va tous les résoudre. Et en fait, l'idée, c'était de traiter ça différemment. C'était de voir qu'en réalité, un synthétiseur, c'est une fonction qui met en lien des paramètres et de l'audio. Mais en fait, avoir deux ensembles différents, ça implique deux espaces différents. D'un côté, on a l'espace des paramètres et de l'autre, on a l'espace de l'audio. L'idée, c'est que... cet espace des paramètres, il n'est pas uniforme. Si je prends, par exemple, la quantité de dry-wet qui est à quel point l'effet a de l'importance, il va y avoir des endroits utiles et inutiles par rapport à d'autres paramètres. Pareil, dans l'audio, c'est quelque chose de très non linéaire. Il y a des choses qu'on peut faire avec notre synthé, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec notre synthé. Et en fait, synthétiser, c'est projeter un point de l'espace des paramètres vers l'espace du son. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est aussi comprendre l'inverse. Donc, est-ce qu'on peut prendre un son et dire « voilà les paramètres du synthé qui vont nous permettre de refaire ce son ». Le problème, c'est que l'endroit où on a du contrôle, c'est cet endroit des paramètres qu'on ne comprend pas très bien. Et l'endroit où on veut du contrôle, c'est l'endroit de l'espace audio. Donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est construire un mapping inversible, donc quelque chose qui nous permettrait aussi de donner plein de solutions possibles. Et là, magie, ça s'exprime parfaitement bien avec notre notion probabiliste que j'ai expliquée avant. Donc, je vais skipper plein de maths parce que je pense que c'est mieux sans les maths. Comme ça, je vais vous montrer aussi l'idée. Donc, comparé à cette approche très limitée, ce qu'on a proposé, c'était le contrôle de synthétiseur universel avec des flows. Donc, l'idée, c'est qu'on va utiliser toujours le même genre de technique, organiser l'information, compresser cette information pour essayer d'en tirer l'espace essentiel d'organisation. On va faire pareil avec notre espace de paramètres. On va le compresser, essayer de comprendre comment il interagit. Puis, on va construire cette espèce de mapping, donc vraiment quelque chose d'inversible qui nous permet de traverser d'un espace à l'autre. Et ça, on peut le faire en contrôlant des paramètres un peu sémantiques au niveau. Donc, l'avantage d'avoir fait ça, c'est que grâce à ça, on peut directement prendre un son et découvrir quels sont les paramètres du synthétiseur qui nous permettraient de reproduire ce son. Donc ça, c'est le principe de l'inférence. On prend un son, on va vers l'espace simple de l'audio, puis l'espace simple des paramètres, et boum. Mais en même temps, on découvre aussi quel est le rapport entre les dimensions audio, ce qui nous permet d'obtenir des contrôles simplifiés dans l'espace audio du synthétiseur. Donc on va traverser des choses très complexes de manière très simple. On peut aussi prendre des choses qu'on a faites en termes de presets, donc des contrôles déjà définis, et revenir vers cet espace audio pour l'explorer. Et enfin, on peut découvrir des dimensions sémantiques. Donc là, j'ai plein de slides qui vous montrent d'une certaine manière qu'on est capable de très bien réoptimiser. Donc je vais passer un peu tout ça. C'est aussi les dimensions audio qu'on découvre automatiquement grâce à ce système. Et en fait, on a une vidéo assez classe avec un joli sound design et bien pensé. Donc je vais plutôt vous montrer le système en démo. C'est-à-dire qu'on a fait un système qui marche sur Ableton Live et qui vous permet d'avoir un contrôle. Donc, c'est un modèle d'IA, enfin de machine learning, qui va simplifier le contrôle d'un système très complexe. On prend un truc complexe, et l'IA nous permet d'avoir un contrôle, de découvrir des choses qu'on serait incapable de découvrir en tant qu'être humain. Donc, je mets la vidéo, je ferai des pauses pour vous expliquer, parce que je vais un peu vite. Notre belle intro. Voilà, donc, le principe du plossing, c'est, vous voyez ici, on a un synthétiseur, donc le synthétiseur, c'est ce gros truc rouge, et vous voyez qu'il a plein de boutons. Il est inclus dans le truc que j'ai développé, qui s'appelle le FlowSim, qui est là. Et donc, le principe, c'est que quand on joue avec un synthé, on peut bouger les boutons. Et donc, ça prend très longtemps, parce que si on veut changer la nature du son, la manière dont ce son est produit, ça peut nous prendre des heures de trouver le son qu'on veut. Donc maintenant, imaginez qu'on puisse prendre un fichier Wave, n'importe quel son. Donc là, je vais le glisser dans le système et vous allez voir qu'on va trouver les paramètres en 20-40 millisecondes. Donc, je prends le point Wave, je le mets dans mon système. Et vous voyez qu'on a un son qui est très proche de l'original. Donc, ça marche aussi avec l'imitation sonore. Par exemple, on fait un son à la bouche. Et c'est un truc qu'on contrôle. Donc, c'est-à-dire que je peux jouer plus haut, plus bas. Je peux changer les paramètres de contrôle. Comme je vous ai expliqué, ces espaces simples, ils organisent aussi les propriétés. Donc là, vous voyez que je tape différents presets et tous ces presets ont une tonalité, un son qui est très proche les uns des autres. Donc ça a organisé l'espace de mes sons automatiquement. Autre chose assez cool, c'est qu'on peut se balader à l'intérieur de cet espace. Donc j'avance un peu parce que ça prend pas mal de temps. Ah non, j'ai fait des bêtises. Excusez-moi. Oh mon Dieu, catastrophe. Je vais avancer un peu. Voilà, l'idée, c'est que là, on a une track qui joue. On a défini un chemin dans notre espace audio. Vous allez voir qu'en fait, ce qui est passionnant, c'est que cet espace, il fait juste 8 dimensions. Et en fait, il va y avoir les 200 paramètres du synthétiseur qui vont bouger en même temps. Donc, on découvre des dimensions très complexes dans cette case. Et nous, on les parcourt de manière très simple. Vous voyez que là, il y a absolument tous les contrôles pour ne pas bouger dans tous les sens. Quand on se balade dans cet espace très simple. Et enfin, la dernière chose, on a ajouté par-dessus un truc qui s'appelle le Leap Motion, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se balader, encore une fois, très simplement avec notre main, juste en bougeant notre main dans ces trois dimensions, on traverse l'espace et se sont permis par le synthétiseur. Voilà, donc je skip pas mal d'exemples supplémentaires pour conclure, je crois, parce que là, on est à 59 minutes de présentation, donc c'est tight, j'ai une minute pour vous présenter cette slide, ouais, un truc comme ça. Bon. Voilà, la conclusion de notre travail, même si ici j'ai présenté de manière un peu chaotique pas mal de choses mélangées avec des résultats de notre équipe, la question c'était comment on redéfinit cette relation créative avec l'IA. Donc la question présentée par nous de la créativité et de la nouveauté, c'est le point le plus compliqué dans une approche computationnelle. C'est-à-dire qu'on entraîne un modèle avec une espérance. Comme je vous expliquais, l'espérance c'était de faire cette moyenne. La moyenne, c'est de dire, bah, en gros, j'ai envie d'avoir une erreur moyenne à travers tous mes exemples qui est minimal. Donc ça veut dire que je dois mettre de côté les choses qui sont pourtant exactement ceux qui définissent la nouveauté et la créativité. Ce qu'on va faire, c'est optimiser ce qu'on appelle ce mode principal. Et donc, si vous vous souvenez de cet argumentaire sur l'excentricité, le problème, c'est que c'est exactement ce qui est censé être l'idée créative à venir qui va être envoyé dans les choux. Donc, le risque d'utiliser ou de surutiliser ces générateurs autosuffisants, comme on en parlait, c'est le fait d'avoir une forme de drift génétique. Ça, c'est un argumentaire que j'adore. Je ne sais pas si vous connaissez le genetic drift. En fait, c'est un argumentaire contre l'eugénisme et le nazisme. Il s'avère que si vous prenez une population d'individus et que vous sélectionnez toujours que les meilleurs, ben en fait, vous appauvrissez votre piscine génétique jusqu'à dégénérer vers un sous-optimal de votre espace. Donc, dans les algorithmes génétiques, c'est prouvé que l'eugénisme, c'est de la merde. Donc, merci les maths pour nous prouver que le nazisme, c'est de la merde. Et donc là, maintenant, la question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de risquer de faire la même chose avec l'IA? Est-ce qu'on va créer des machines génératrices de normes infinies? Donc, si on se contente de faire ce genre de choses, de générateurs autosuffisants, sans avoir de co-créativité avec l'humain, on ne favorise pas la création de décisions du point de vue de l'IA. Autre problème, la qualité. Et ça dépend essentiellement de la loss et des données. Je vous disais qu'on est très biaisé. Ça, c'est un exemple qui a un peu fait du bruit il n'y a pas longtemps, parce que forcément, ça a généré un bordel sur les biais sociétaux de l'IA. Les biais sociétaux de l'IA, en fait, ce n'est pas l'IA qui est biaisé, c'est l'humain qui choisit ses exemples. OK ? Et elle se contente de faire ce qu'on lui dit de faire. Donc, par exemple, ici, vous voyez à gauche que c'est clairement ce cher Barack Obama. Et en fait, il est pixelisé. Le but de ce système, c'est d'augmenter la résolution. Donc, prendre un truc basse résolution, en faire un truc haute résolution. Et vous voyez que peu importe les exemples qui lui sont proposés en tant que chose à upsampler, ça va avoir un biais sociétal énorme, un biais racial. Et donc, le problème, c'est que l'IA n'est pas encore capable de déterminer sa propre valeur créative, son propre contexte. Okay ? Et ce biais sociétal, ce biais contextuel, il vient de l'humain. C'est lui qui a des biais. Donc, l'inhabilité de générer des processus exploratoires, ça fait que, comment on redéfinit notre relation ? D'une première partie, on a cette notion très contextuelle où, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que l'IA générative autocontenue, elle n'a aucun putain de sens. Okay, on veut générer des choses nouvelles, mais en fait, on utilise des choses qui optimisent des normes moyennes. Donc, les principes de créativité doivent être partagés entre humains et machines. Essayer d'éviter d'imiter nos propres biais, nos propres préconceptions et redéfinir une espèce de partenariat. Donc, c'était un peu l'idée, par exemple, du synthétiseur. L'IA est forte pour comprendre des choses qui sont bien trop complexes pour nous, les réarranger sans forcément comprendre leur contexte ni leur relation créative. Donc, l'idée de la co-créativité, c'est vraiment de remettre l'emphase sur l'interaction et le contrôle des approches créatives et ce partenariat qui permettrait d'avoir une vraie co-créativité. Et donc, comme on disait sur le fait que faire attention à cette optimisation de la justesse moyenne, ça pourrait nous amener à ces machines génératrices de normes infinies. Et donc, ça, c'est quelque chose qui serait détrimental de la créativité et donc ce que j'expliquais sur le genetic drift. L'idée, c'est que si on regarde dans le passé, les approches computationnelles, elles ont réussi à amener la créativité à des endroits qui étaient impossibles jusqu'à maintenant. Par exemple, l'exemple des synthétiseurs. Et c'est loin d'être fini. Donc, ce qu'on propose, c'est repenser notre relation à l'IA. Donc, s'éloigner le plus possible de l'imitation biologique, de vraiment uniquement cette réification mathématique, pour comprendre que la puissance de l'ordinateur, c'est aussi de générer du bruit. Et c'est quelque chose où nous, on n'a aucune capacité de générer correctement du bruit. Donc, pour finir, je vous présente une idée un peu tarée qu'on avait faite il y a longtemps, qui s'appelle « Échapper aux portes de la perception ». Le problème, c'est qu'en tant qu'être humain, on a ce que j'ai envie d'appeler des prisons fractales. On est enfermé dans une prison génétique qui nous force à avoir une certaine perception. On ne peut pas entendre la matière noire, on ne peut pas sentir les rayons X. On a ensuite une prison intellectuelle qui vient tout simplement de notre éducation, de notre contexte social, où est-ce qu'on est né. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous force à nous interroger sur quels sont nos propres biais intellectuels, qui a été la question récente des chambres à écho, par exemple. Et enfin, on a des biais sociaux, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance, les chambres à écho, où on aime bien la consanguinité d'une certaine manière, on n'aime pas trop être contredit dans nos pensées. Donc, il faut essayer de s'échapper de ça, et la pure froideur du calcul computationnel est une bonne manière d'en échapper. Voilà, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai essayé de conclure, ce n'était pas terrible, je suis désolé. Mais merci beaucoup de votre attention. On a 4 minutes de dépassement, ça va. Voilà.
Ouf. Merci beaucoup Philippe et Ninon. Personnellement, c'était un voyage pour moi, un voyage des terres inconnues, peu connues. J'ai plusieurs questions, mais j'aimerais savoir tout d'abord si d'autres personnes ont des questions. Parce que moi, j'aurai l'occasion de vous parler personnellement, peut-être pas. Si jamais vous avez une question, allez-y, allumez votre micro. Parce que pour l'instant, j'ai dit bravo, super présentation, bravo, énorme, excellente présentation, c'est génial. Donc. Bon, en attendant que quelqu'un trouve une question, j'ai plusieurs choses auxquelles j'ai pensé. Tout d'abord, avec des copains qui font à peu près pas la même chose que vous, parce qu'ils travaillent dans le domaine de l'image, on pensait justement à la perception. Et on s'était dit que ça serait peut-être intéressant de développer une sorte de drogue pour l'IA qu'on administre du coup pour changer la façon dont les associations sont faites, dont le résultat final va être du coup influencé comme si c'était du LSD ou une autre substance. Et j'ai pris du courage pour vous poser cette question. Pensez-vous que déjà A, c'est possible, et B, qu'est-ce que ça peut donner aux chercheurs et aux artistes? Moi, je le vois comme une sorte de virus qu'on injecte, comme maintenant on injecte du bruit pour générer du chaos, de l'erreur. Est-ce qu'on peut inventer un autre truc qu'on peut injecter pour ouvrir les doors of perception de l'IA elle-même?
Alors, j'ai envie de te dire oui, d'une certaine manière. Bon, déjà, je vais construire une réponse un peu bizarre à une question perchée, donc ça va, on reste tout sur point. L'idée, c'est que la drogue, comment fonctionne-t-elle? Qu'est-ce que la drogue? Non, plus sérieusement, la drogue, en fait, ça va attaquer certains mécanismes pour essayer de les faire s'enflammer ou de les faire dérailler d'une certaine manière. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir, par exemple, la MDMA, c'est un casseur de sérotonine. Donc, c'est quelque chose qui va juste aller bloquer un circuit qui marche très bien pour lui faire croire quelque chose et donc que ça passe un comportement qui est inattendu. En ça, en fait, toutes les expériences qu'on a faites avec les compositeurs, c'est la première chose qu'ils font. La première chose qu'ils font, c'est que tu leur dis, voilà un système. Ce système attend des entrées entre moins 4 et 4, par exemple, parce que c'est... le support d'une deuxième. Bref, on leur dit, voilà, ça marche comme ça, il faut cliquer là-dessus. Première chose qu'ils font, c'est qu'ils font complètement n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils vont commencer tout de suite par mettre des valeurs complètement aberrantes. Et en fait, il y a une forme de beauté dans ce que j'ai envie d'appeler les modes d'erreur, les modes d'échec du système. Et donc, déjà, de manière inhérente, tu as des modes d'échec. C'est-à-dire que tu es habitué à donner certaines entrées et ton système fonctionne sur certaines choses. Et en fait, tu vas donner quelque chose de complètement différent. Je me souviens qu'il y a un de nos doctorants, Adrien, qui a passé des bruits de chats à un système qui était fait pour traiter de la voix. Et donc, ça a fait des bruits horribles de l'espace avec des chats mutants, etc. Donc, même si ça n'est pas encore de la drogue, entre guillemets, c'est quand même une manière de générer un mode d'erreur dans un système. Et pour moi, c'est un peu ça, quand tu réfléchis à la drogue, c'est quelque chose qui génère des modes d'erreur. Deuxième partie de la réponse, tu as quand même déjà des systèmes, par exemple Deep Dream. Deep Dream, c'est basé sur le renforcement. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est juste qu'on prend une image et en fait, le moindre artefact va être renforcé en repassant l'image plein de fois jusqu'à ce que ça exhibe certaines structures. Et en plus, les représentations sont quand même assez proches de ce qu'on voit sous LSD, d'après ce qu'on a dit. Et l'idée, c'est que généralement, ce qu'on va faire, c'est amplifier. Donc, cette notion d'amplification d'erreur, elle se fait énormément par juste repasser la même chose dans le système pour amplifier petit à petit ces artefacts. Donc, ça, c'est une pièce qu'avait fait Daniel Eguizi aussi, où il travaillait énormément sur le fait d'amplifier les modes d'erreur d'un système. Maintenant, pour une réponse plus mathématique, l'idée, ça serait d'avoir, je pense, un système de coaction modulant. Et ça, c'est quelque chose qui s'appelle FILM, c'est Feature-Wise Linear Modulation. Le principe, c'est qu'on a un système qui va moduler le comportement de notre système principal par ce qui s'appelle du conditionnement. Ça veut dire qu'on a tout simplement un mécanisme qui conditionne la manière dont le modèle se traduit. Si tu peux injecter une forme de logique de plus haut niveau à l'intérieur de systèmes de conditionnement, tu peux peut-être le faire dérailler d'une manière un peu plus construite. Parce que là, tout ce que je propose, c'est d'injecter du bruit, quoi. Et donc, mon idée, ça serait de connecter un système de raisonnement qui peut être modulé par un autre système de raisonnement qu'on peut faire dérailler d'une manière construite. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question.
Si, si, tout à fait. En fait, la question, elle est liée aussi à cette histoire de, que j'ai trouvée très intéressante dans votre papier. C'est que imiter l'humain, ça, c'est un peu ennuyant. On perd beaucoup de richesses que les ordinateurs peuvent nous proposer. Mais quand même, il y a cette idée de l'imperfection et l'erreur qui agissent dans le processus créatif. Ce n'est pas seulement original ou relevant, c'est aussi parfois inattendu, mais dans le sens où c'est presque un échec. Or, ça devient quelque chose de reconnu un peu plus tard. Et c'est pour ça que je me demande quels sont d'autres mécanismes pour induire du hasard, à part l'injection de bruit dont j'ai entendu parler quelque chose. Je comprends bien sûr peut-être une dixième de ce que ça veut dire, mais peut-être vous avez d'autres questions, parce qu'on a quand même 41 personnes qui sont avec nous, et je serais surprise si... Ah, voilà. Pour ce qui concerne l'IA, est-ce que vous avez une considération spéciale ou une attention particulière à l'éthique? Très belle question, je l'attendais. Alors, éthique.
Alors, la réponse est multiple, plurielle et pleine de retors, on va dire. Ce qu'il faut savoir, c'est bon, clairement, dans le cadre de, tu vois, par exemple, la musique, c'est des questions qui se posent un peu moins. Il y a toutes les questions du droit à l'auteur, de qui est générateur de la composition, etc. Il y a énormément de recherches en ce moment sur l'éthique de l'IA, notamment à Sorbonne. Il y a tout un labo qui est dédié à l'éthique de l'IA. Si tu vas voir sur le site du Sky, donc le centre Sorbonne d'intelligence artificielle, c'est un des thèmes principaux, à côté de humanité numérique, médecine, etc. Donc oui, clairement, il y a une considération spéciale qui est portée à ça. Nous, particulièrement, un peu moins. On a une doctorante dans l'équipe qui fait un taf assez classe sur ce qu'on appelle le Green AI. Donc le Green AI, c'est plutôt essayer de générer, parce que le problème, c'est qu'actuellement, pour générer, il y a certains modèles comme WaveNet, qui était le premier modèle de génération audio qui est vraiment donné des résultats impressionnants. Sa première émanation, il fallait utiliser l'équivalent de d'une voiture pendant toute sa vie pour arriver à l'entraîner en termes d'émissions de carbone. Donc, on a des considérations plus écologiques qu'éthiques, parce que bon, c'est de l'éthique plutôt environnementale, on va dire. Moi, j'ai une réponse qui est souvent un peu perchée pour répondre aux problèmes de droit d'auteur. Là, en ce moment, on se pose vachement la question de les échantillons qu'on utilise, à l'intérieur d'un système probabiliste, est-ce que ils vont être il y a Vincent qui a une question, je crois. Salut Vincent. Désolé, je viens de voir. Je termine juste, je me suis perdu. Oui, en gros, la probabilité d'un point, elle est nulle. Si le point vit dans un espace réel, c'est-à-dire dans un domaine réel, la probabilité d'un point en particulier, elle est égale à zéro. Et donc, moi, je trouve qu'il y a un peu des fausses questions qui sont tout autour de ça. On n'a jamais essayé de partager l'argent entre un peintre et celui qui a créé ses pinceaux, quoi. Donc maintenant, c'est parce que ça s'appelle intelligent, et donc ça pose effectivement des questions éthiques. Je trouve ça un peu dommage. Le problème, c'est que clairement, si quelque chose peut être mal utilisé, il sera mal utilisé. Donc, je pense qu'il va falloir se poser ces questions. Mais nous, dans notre équipe, on se les pose pas vraiment. On fait juste couette.
Merci. Donc, Vincent avait une question.
Bonjour tout le monde. Est-ce que je dois écrire ma question ou est-ce que je peux parler?
Parlez, s'il vous plaît.
Bon, c'est bon. Très bien. Okay. Alors, bonjour Philippe et Ninon. Si vous étiez acousticien, je dirais quelle place dans votre travail pour le cerveau, pour la perception, pour l'oreille. Alors, vu que vous êtes plutôt matheux, intelligence artificielle, données, je vais vous demander quelle place dans votre travail pour l'ergonomie, pour la lutherie, pour la physique et pour la jouabilité de la musique que vous proposez.
Ah, tu veux bien? Non, ok.
Tu vas parler de l'industrie des modulaires?
Ouais, complètement. Désolé. En fait, c'est incroyable que tu poses cette question parce que c'est le sujet, peut-être pas exact, mais c'est un des trucs qui est inclus directement dans le sujet de thèse de Ninon. Donc, Ninon travaille sur l'embarquabilité des modèles dans les synthétiseurs modulaires. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire des choses qui soient suffisamment légères et aussi qui soient interactives avec d'autres systèmes. Et donc, ça, c'est un concept que j'aime bien. C'est le fait de dire que quand on a créé des nouveaux instruments, on a aussi créé des interacteurs pour ces instruments. Okay, on a fait des cordes, on a commencé par taper dessus et faire c'est rigolo, c'est des cordes. Et ensuite, on a dit, ce serait peut-être mieux si on frottait un truc en crin de cheval. Et non, ça sonne vraiment dégueulasse. Vas-y, essaye de mettre un peu de la colophane dessus. Ah ouais, ok, là, c'est pas mal. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que quand on a créé des nouveaux systèmes de génération, on réfléchit aussi au geste instrumental. Et là, clairement, en IA, j'ai l'impression que c'est très pauvre. C'est-à-dire, et ça rejoint, tu vois, l'argumentaire de l'article que j'enjoins à tout le monde à peut-être lire, ou au moins l'abstract, hein, c'est pas mal. Donc l'idée, c'est que on va avoir cette notion de mimétisme, mais c'est normal d'avoir une forme de biomimétisme. Donc tu vois, par exemple, j'ai la sensation, vraiment, tous les travaux sur les VAE, tout ce qui est probabiliste, on va considérer que c'est un synthé. C'est-à-dire que tu as maintenant des aides, et ces aides, c'est des potards, et si tu bouges les potards, ça doit se comporter comme un synthétiseur. Ce qu'on va avoir tendance à faire aussi, c'est tout de suite se poser des questions de transfert. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de prendre une musique, l'écouter et dire « Ah cool, je vais la jouer avec mon piano ». Donc, en tout cas, pour cette notion de lutherie, je pense qu'elle est fondamentale, et c'est un travail qui, à mon avis, va nécessiter des choses bien plus évoluées de type renforcement. Et en fait, ça, c'est un autre truc que je me disais, tu vois, il y a pas mal d'articles qui disent que le disentanglement, c'est quelque chose qui est impossible, qui est en fait complètement stupide si t'as pas de dimension de référence. Désolé, j'utilise des termes un peu perchés, mais je sais que Vincent, il comprend, donc je m'excuse pour les gens. Disentanglement, c'est le fait de séparer et d'orthogonaliser parfaitement. Comme je montrais les visages, on a vraiment une dimension, c'est l'orientation, et une dimension, c'est l'émotion. Ok, on n'a pas un truc où c'est à moitié l'un et à moitié l'autre. Et en fait, ça, c'est montrer que c'est pas vraiment valide. Ce qui veut dire que cette approche aussi, elle a une forme de subjectivité, je pense. Et c'est là que tu vois le mécanisme d'interaction. L'avantage, c'est qu'on peut peut-être l'adapter à l'utilisateur, et c'est là qu'il devient vraiment vraiment intéressant. Et donc pour l'ergonomie, ça, je dois avouer que c'est toujours une grosse problématique parce qu'on travaille de manière assez proche avec des compositeurs. Donc, en fait, on fait de l'ergonomie de la musique contemporaine, ce qui marche pour 0,00000001% de la population. Et en tout cas, les compositeurs ont tendance à, tu vois, générer des contrôles. Si jamais tu passes à l'IRCAM, si jamais un jour l'IRCAM existe et qu'on peut passer, il y a une nouvelle résidence qui commence là, un compositeur qui s'appelle Maxime Montovani, qui a fait le cursus l'année dernière, qui est vraiment trop cool. Et il va développer, en fait, des interacteurs spécifiques pour l'IA. Donc, il commence à travailler avec des espèces de simili-platines. Il a fait des interacteurs circulaires. Enfin, c'est un mec qui construit vachement ces trucs. L'idée, ça va être de tester plein de manières de gratter, de tourner, de bouger, de voir est-ce qu'on peut développer un interacteur qui ait plus de sens pour l'IA.
Super, merci. Du coup, ça a un direct avec l'autre question qu'on a dans le chat. Pour quand peut-on prévoir une démocratisation des outils de création ayant comme base l'IA pour les créations musicales? Donc, en partie, tu as déjà répondu avec cet exemple de la résidence, mais peut-être vous connaissez d'autres projets qui vont dans la même direction. Ou au moins pour la démocratisation des outils, par ça, je pense que Grégoire entend l'utilisabilité, mais peut-être vous pouvez me corriger si j'ai mal compris votre
point. Ouais, alors. D'une certaine manière, j'ai envie de dire que c'est déjà un peu le cas. Le problème de démocratisation, je pense que c'est un problème plutôt là qui n'est pas, tu vois, une question technique autant qu'une question matérielle, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, actuellement, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir mon profil de chercheur sur Google. J'ai l'impression de le vendre et tout. C'est top. Mon profil Instagram chercheur. En gros, sur Google Scholar, vous regardez les deux derniers articles sur lesquels on a bossé, d'ailleurs avec nous aussi, c'est est-ce qu'on peut alléger les mécanismes de génération? Parce qu'actuellement, les trucs que j'ai présentés, ils marchent très bien, mais sur des systèmes GPU. Donc, il faut une carte graphique hyper puissante et on est en train de pomper de l'énergie de fou. Donc, embarquer ça dans un synthé, c'est quasiment impossible. Et donc, je pense que c'est la direction que c'est en train de prendre, notamment, en fait, le système que j'ai présenté, le FlowSynth. En réalité, une fois qu'il est entraîné, je peux supprimer une grosse partie de tout ce que je fais. Ce qui fait qu'en fait, il marche sur CPU et il est utilisable. Pour ceux qui ont envie de tester, il y a un GitHub, vous avez la Device Max for Life, tout est ouvert. Le problème, c'est vraiment qu'en fait, faire un synthé, c'est aussi avoir des gens qui bossent sur l'UX, des retours utilisateurs, etc. Et nous, on est un peu trop petit là-dessus. Mais trop petit en termes de, je pense, d'effectifs pour pouvoir vraiment produire nos propres synthés. Mais on travaille notamment avec l'entreprise Square, par exemple, qui fait des super séquenceurs modulaires. Nino fait sa thèse en collaboration avec Square, qui est une boîte de synthèse. Donc, je pense qu'il y a déjà aussi certains, par exemple, Native Instruments, ils ont fait un ensemble, Isotope, qui est une boîte qui fait des VST, ils ont mis du machine learning dans certains de leurs systèmes. Donc, par exemple, c'est des filtres qui vont automatiquement détecter le type de son. Donc, par exemple, si tu joues de la guitare électrique, ça sait que ça doit équaliser une guitare électrique et ça va te proposer des settings pour Trash, RX, etc. Donc là, ça ressemble pas mal à ce qu'on a présenté, où vraiment l'IA est plus pensée pour comprendre des contrôles que tu aurais du mal à comprendre. Notamment du mastering, c'est quand même tout un art, il faut comprendre plein de trucs. Mais ensuite, un système qui détecte du mastering, c'est un système qui va en fait travailler sur des espaces assez petits. C'est-à-dire que 100 dimensions, c'est pas grand-chose comparé aux millions de dimensions qu'on a quand on veut générer une forme longue. Donc en fait, les premières démocratisations, je pense, elles viendront des outils de contrôle. Les deuxièmes démocratisations, elles viendront des systèmes de génération symbolique, parce qu'encore une fois, c'est les plus simples. Donc je pense que la démocratisation va se faire au rythme de la dimensionnalité des données. Je l'aime bien cette phrase. Mais ça a une forme de logique. En fait, j'avais jamais réfléchi comme ça. Mais en fait, l'idée, c'est juste que si la contrainte est purement matérielle et non mathématique ou de résultat, ça va se faire au rythme de la complexité. Et donc, par exemple, je pense que là, ça fait à peine un an ou deux qu'il commence à y avoir des solutions pour vraiment alléger les systèmes de génération. Donc, ça fait seulement un an ou deux qu'il y a vraiment des recherches intéressantes qui permettent de simplifier à la fois la complexité, donc le temps de calcul, est-ce que ça tourne sur un ordi de base, et aussi la complexité d'utilisation du système. Donc voilà, ça je peux répondre à la question, vous pouvez remettre le lien vers la vidéo du... Donc ça je vais répondre.
On a 3 minutes qui nous restent, j'espère que quelqu'un a une question, parce que je ne veux pas monopoliser les 3 minutes.
Donc, j'en profite, je remets juste le lien vers la vidéo YouTube et à savoir qu'il y a aussi un superbe GitHub sur lequel tout ce qu'on a présenté est accessible. Donc, absolument toutes les recherches que vous avez vues aujourd'hui sont open source, gratuites, téléchargeables. Vive l'open source. Donc, le synthétiseur lui-même est téléchargeable ici. Les trucs que j'ai présentés bizarres là qui font des bruits de perceuse ou tout ça, c'est disponible aussi. On a aussi le truc qui transforme de la voix en violon. Donc voilà, je vous remets des petits projets si vous avez envie. Bon, le problème, c'est que en parlant de démocratisation, pour répondre à la question de Greg, il faut utiliser Python en mode console pour se servir de ces trucs. À part le FlowSynth où vraiment j'ai pris pas mal de temps pour faire le Max for Life qui devrait marcher tout seul, j'espère. Donc voilà, n'hésitez pas à tester, à nous balancer des trucs à la face si jamais ça ne marche pas.
Ah tiens, est-ce que vous connaissez des travaux sur les associations sans couleur, mouvement sans visualisation? Merci pour la question.
Alors, les associations spécifiquement sans couleur, j'ai vu passer un article qui était assez marrant, qui essayait de faire de la synesthésie artificielle. Mais alors, je me souviens plus du tout, parce que j'avais trouvé le truc un peu fallacieux et pas vraiment, un peu ténu sur la justification de l'association. C'est-à-dire, association sans couleur, ça implique, il y a un problème qui s'appelle le problème des données à Paris. donné à parier, ça veut dire que pour chaque exemple A, on a un exemple B, et ce qu'on essaye de comprendre, c'est le rapport entre A et B. Pour les sons couleurs, ça me paraît un peu compliqué de décider ad hoc quel est ce rapport, puisqu'il a l'air, enfin, d'après moi, il est très subjectif. Par contre, sur tout ce qui est mouvement son, Axel fait sa pub pendant ce temps-là. Pour les associations mouvement et son, il y a énormément de travaux qui ont été réalisés. Donc, je sais qu'il y avait pas mal de recherches, notamment Sarah Bialaoui qui travaille là-dessus et Baptiste Caramio. Donc, si vous cherchez Baptiste Caramio, c'était des recherches donc plus sur la danse, le rapport entre danse et son. Et il me semble qu'il y avait un mécanisme d'IA assez classe qui faisait Dance AI Japanese. C'était avec un danseur japonais. Et en gros, c'était un danseur de buto qui avait des électrodes connectées au corps et qui contrôlait un modèle de synthèse. Alors, je ne me souviens plus du tout comment il s'appelle, mais je peux essayer de le retrouver rapidement. Donc ça, il y a effectivement pas mal de recherches qui sont faites parce que aussi, il y a une forme de corrélation bien plus... merci Vincent pour Baptiste et Sarah. Ouais, il y a une forme de relation qui est quand même beaucoup plus forte entre la danse et la musique qu'entre la musique et la couleur, par exemple. Enfin, je trouve, c'est très subjectif de ma part, mais je vais essayer de retrouver. C'est Yama Artificial Intelligence. C'est un truc assez perché qui transforme un danseur en pianiste. Et il me semble que derrière, ah non, c'était pas un Japon. Non, c'était au Japon. Oui, c'était. Pardon, je dis n'importe quoi. C'est... Non, mais c'est les chercheurs sont japonais. Et là, aujourd'hui, on est entre chercheurs. Donc, oui. Et les Japonais. Ah ouais, il est japonais, trop cool. Nickel. Je vous mets la vidéo. Et c'est assez intéressant. Vous avez vraiment un système qui fait une transformation. Désolé, je le fais jouer en même temps. Je ne sais pas si je partage l'écran. Non, on est à la fin de la conf. Je vous invite à aller regarder cette expérience qui est quand même vraiment très belle et où il y a un apprentissage qui a été fait. Donc, la détection est en réel, tout est en réel, mais je crois qu'avant, il y a eu une phase d'entraînement où le danseur lui-même a exprimé des choses en rapport avec certaines musiques. Et là-dessus, vous avez des travaux qui sont super cool aussi, qui ont été faits par Jules Françoise, qui travaillait sur un truc qui s'appelait le IRCAM. C'était un truc qui permettait justement d'associer des sons. Motion quelque chose. Je vais essayer de vous retrouver ça, où l'idée c'était d'apprendre le rapport entre certains sons et certains mouvements et ensuite de pouvoir motion sound mapping, ça c'est pas mal. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo. Ça c'était un truc qui était fait à l'IRCAM. L'idée c'est d'associer, là c'était du machine learning mais pas dans le sens, c'était vraiment pour apprendre la corrélation entre le mouvement et un son particulier. Je sais pas s'il a une page YouTube. Il me semble que j'avais vu des vidéos à l'IRCAM, mais si ça se trouve c'était juste des vidéos IRCAM, hein, parce qu'on n'est pas très fort sur la communication des fois. Ouais. Bon, voilà, donc oui, ça existe, il y a pas mal de recherches, c'est pas très bien publicisé, je trouve, parce que je trouve plus du tout ce qu'il est, ce truc. Voilà.
Bon, merci beaucoup. Il est déjà l'heure de terminer la séance, même si j'ai envie de continuer. Et peut-être ce qu'on peut faire, c'est d'ouvrir un pad où on peut continuer à partager des liens sur ce genre de projet. Si ça vous dit, je crée un lien là tout de suite. Je le mets dans le chat. Vous le sauvegardez si vous voulez et on continue à l'alimenter de temps en temps et jeter un coup d'œil dessus si ça vous va comme solution pour ne pas abandonner toutes les jolies références qu'on a déjà collectées. En attendant que le pad se charge, puisqu'il s'agit d'une solution open source, ça prend du temps, je voulais vous remercier Philippe et Ninon pour l'excellente présentation et la prochaine séance de ce séminaire aura lieu le 24 février. On aura d'autres personnes qui sont tout aussi fous et tout aussi geeks et tout aussi doué, donc il est resté en contact. Voilà le pad, il n'y a pour l'instant rien, mais on va l'alimenter après la séance. Je vais copier tous les liens qui ont été postés ici et on continue. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée et à plus pour le séminaire du groupe de travail à intelligence artificielle, art et créativité. Ciao.
Ciao.